gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. Avec des mitraillettes, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner.
Vous êtes bien sûr fréquence Paris pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Au vu de l'hélicoptère qui ne voulait plus s'arrêter, est-ce que je ne sais pas si vous avez entendu, donc on va, vous êtes bien sûr fréquence Paris pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Autour de la table, nous avons Alex.
Salut tout le monde.
Arthur.
Salut.
Serge.
Salut tout le monde.
J'ai au bocal Sylvia qui vous salue pour nous écrire. C'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e.
L'envolée-fpp. Et pour nous appeler, donc c'est au 07 52 40 22 48. Et donc ça, vous pouvez nous appeler toute la semaine, on est dispo, quoi. Et donc il y a le retour de Sylvia dans l'émission.
C'est Sylvia.
Voilà, c'est cool, ça nous fait plaisir. Et
c'est qui est sénile? Non, parce qu'il y a 15 secondes,
ce mec.
Sylvia m'insultait par rapport à mon âge avancé, qui n'est absolument pas avancé, donc voilà.
Et qui commence doucement, quoi.
Donc voilà.
Bon, doucement, vite. Doucement, ouais, doucement.
Et on peut aussi nous joindre sur tous les réseaux, voilà, et puis il y a l'adresse mail aussi, donc pas hésiter à nous contacter. Et on va refaire un journal dans pas trop longtemps, dans quelques semaines, donc n'hésitez pas à nous envoyer des abonnements pour l'intérieur, bien demander aux gars à l'intérieur, si aux meufs à l'intérieur, si ils ont envie d'être abonnés. Donc n'hésitez pas à abonner vos proches et puis à l'extérieur aussi s'il y a des gens. Voilà, donc vous nous envoyez au contact qu'on vient de donner, quoi.
Ouais,
sans oublier que c'est bien sûr et évidemment gratuit pour les prisonniers.
Ouais, et ça, c'est hyper important pour nous. Quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des poteaux d'une maison de distribution qui veulent, enfin voilà, des éditions L'Échappée, qui viennent de sortir un bouquin sur Berkman, sa biographie. Voilà, donc c'est un anarchiste américain, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est un énorme pavé et tout ça, mais ils nous en ont filé quelques-uns en nous disant pour qu'on puisse l'envoyer gratos à l'intérieur. Donc si vous entendez et que vous en avez envie, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà.
Ouais, et juste pour dire, c'est quelqu'un qui a fait quand même pas mal de tôles, oui. Qui a subi pas mal de répression et qui raconte, je crois, dans ce bouquin aussi un peu tout ça. Et du coup, ça peut. Enfin voilà, c'est un bouquin qui vaut le coup, quoi, même s'il faut avoir la déter de le lire, comme tu disais. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, on a quand même une grosse émission, bon, un peu comme d'habitude ces derniers temps. Déjà, on va continuer un peu la discussion qu'on avait à la fin de l'émission de la semaine dernière. On avait commencé à parler de la mort de Santé, notaire Nicolas. Alors, je pense pas hyper bien, désolé, mais du coup, qui est un camarade italien qui est mort il y a quelques semaines à Bologne et qui a beaucoup lutté dans les prisons italiennes, à la fois de l'intérieur quand il y était dans les années 60-70 et qui, du coup, a vécu un peu la grosse réforme pénale qu'il y a eu au milieu des années 70 et qui a un peu transformé les prisons italiennes et qui, depuis, après sa sortie, a continué de lutter de dehors. À la fois par en écrivant des livres, des poèmes, etc., en essayant de faire vivre un peu ce qu'il avait vécu, quoi, en menant une lutte culturelle, mais aussi en soutenant les révoltes. On va en reparler dans l'émission dans deux semaines. Il y aura une émission un peu sur les révoltes en Italie qui se sont produites depuis un an. Et en fait, c'est quelqu'un qui a continué de soutenir ces révoltes-là, notamment à Modène, jusqu'au bout, quoi. Juste après ça, on va revenir sur sur un nouvel épisode dans la répression et l'acharnement contre Philippe El-Shanaoui, qui est quelqu'un qui a fait 38 ans de prison. Donc il est béton en 75, si je ne dis pas de conneries. En tout cas, on l'a accusé d'un braquage en 75. Il a fait 38 ans plein quasiment, avec très peu de temps dehors, quoi, au début des années 90. Et on en avait aussi beaucoup parlé à cette antenne à certains moments. Ils ont encore décidé de lui casser la tête là, à la fin de l'année 2020. Et du coup, on va revenir un peu à la fois sur son parcours carcéral, quoi. Enfin, comment ils se sont acharnés sur lui et sur ce truc-là de la vengeance d'État qui s'arrête jamais. Quoi.
Ils se sont acharnés sur lui et sa femme. Parce que sa femme aussi a pris cher. Enfin, pas dans son côté de femme et de proche de prisonnier.
Ouais, parce que comme on le rappelle aussi à chaque fois, hein, c'est quand il y a des prisonniers et prisonnières qui prennent cher, en fait, il y a des proches derrière, souvent des femmes. Qui les accompagne et déjà le lien avec un prisonnier ou une prisonnière, c'est compliqué, mais quand l'État décide de faire des transferts disciplinaires, d'éloigner les gens, de les faire tourner de QI en QI, etc., en fait, c'est de plus en plus compliqué pour les proches et c'est hyper énervé, quoi. Du coup, suite à ça, on va continuer sur les pratiques un peu systémiques de l'administration pénitentiaire. Je dis systémique, ça veut dire qu'en gros, sur comment l'administration pénitentiaire... Ben, en fait, il y a des morts en prison qui sont tués ou pas par des matons ou qui sont des morts de la prison. Manque de soins, violence, etc. Et truc un peu particulier, là, on va revenir un peu sur un maton qui nous a contactés. Enfin, un maton qui a démissionné il y a quelques années. Et on va revenir sur... Sur l'histoire de Jean-Claude Merlet, dont on a beaucoup parlé depuis 9 mois, Jean-Christophe Merlet, et la mort de Sambali à la maison, à la tôle de Saint-Martin-de-Ré. Après ça, on va vous donner vite fait des nouvelles du CRA du Ménil-Amelot, parce qu'on avait eu des appels la semaine dernière, et un peu aussi du CRA de Vincennes, qui est à nouveau en quarantaine. Et si on a le temps, on va commencer un truc qui, ça fait longtemps qu'on essaye de le faire, ça fait longtemps qu'on en parle, on voudrait un peu... pas tirer le bilan parce que la période elle continue, mais essayer de faire un peu de regarder un peu ce qui se passe depuis un an et un peu comment l'État, l'administration pénitentiaire, enfin bref, toutes les déclinaisons avancent et c'est quoi un peu les résistances qu'on essaye d'y opposer, mais enfin voir un peu
par
ça va être quoi
par rapport au Covid là, c'est ça,
par rapport au Covid, en tout cas tout ce qui a servi de prétexte avec le Covid et voir comment va falloir se battre dans les prochaines années, enfin mettre un peu les enjeux, quoi, sur les questions de parloir, etc., quoi. Et du coup, ça sera la fin de l'émission si on a le temps et donc voilà. Et on va commencer donc par recevoir un appel.
Bon, on va passer peut-être un petit coup de zic en attendant l'appel. C'est parti. Ça marche pas. Donc c'est pas grave. Peut-être si ça va fonctionner. Donc voilà, Sylvia, est-ce que tu veux nous chanter une chanson?
J'étais prête à chanter, à vous faire un petit éclair de la lune. Tu vois, un petit, je suis à fond dedans en ce moment, donc c'est. Il me dit de chanter, alors.
Non, vas-y, on va passer un petit peu de musique, du coup.
C'est important de parler de... En tout cas, j'espère qu'on aura la place pour parler de ce qui se passe avec le Covid, les parloirs et tout, parce que c'est dramatique, en vrai.
Ouais, et puis peut-être donner une petite nouvelle qu'on a eue là dernièrement, où en fait, il y a quelqu'un qui a été testé positif au Covid, qui devait être jugé, en fait...
devait être jugé en comparution immédiate et à qui on a décidé de repousser, enfin, ils ont décidé de repousser le procès sans que lui le demande. Parce qu'il avait le Covid et donc ils ont estimé qu'il restait en prison. Voilà, donc il est puni, le gars, là, parce qu'il est malade.
Ouais, sachant qu'être malade actuellement en prison, c'est vivre la prison dans la prison. Enfin, c'est déjà que dehors, on nous demande de nous confiner. Bah, là, c'est forcément plus vénère. C'est soit à l'isolement, enfin, en tout cas, c'est moins d'activité, etc. quoi. Et donc, pour commencer l'émission, ce que je disais, c'est on va revenir un peu sur les luttes dans les prisons dans les années 70 en Italie. Pour ça, donc, la semaine dernière, on avait eu un appel qui retraçait un peu comment ça se passait à la fin des années 60, comment il y avait des comités qui s'étaient montés dans différentes prisons pour essayer de gagner en fait, des trucs qui étaient un peu crarés, genre élémentaires, quoi. Enfin, le droit, l'accès à la douche, ce genre de trucs. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, comment ça avait pris beaucoup de temps, comment il y avait eu aussi de la solidarité qui s'était installée depuis dehors, et comment en fait, toute cette montée des mouvements à l'intérieur, ça va forcer l'État italien à se positionner et à faire une grosse réforme pénale qui va modifier les prisons, qui va donner des droits aux prisonniers communs, mais en fait qui va aussi en profiter pour créer toute une série de quartiers spéciaux où il y aura de la répression, enfin où il y aura tout un truc spécifique sur les gens qu'on va désigner comme politiques ou comme en lien avec la mafia. Bref, du coup on a le copain qui est au téléphone. Allô.
Salut.
Ouais, merci de nous rappeler. Du coup, bon là, je viens de faire un peu une longue intro parce qu'on était un peu en galère, mais c'était pour dire un peu on s'était arrêté la semaine dernière dans la discussion. Et du coup, ce qu'on se disait là avec toi tout à l'heure au téléphone, c'est que ce serait peut-être cool de revenir sur le début des années 70 et à la fois ce qui se passe dedans, la solidarité à l'extérieur et voilà.
Ouais, mais du coup, merci pour cet autre espace. Et du coup, enfin, vous l'avez peut-être déjà rappelé, mais du coup, enfin, l'idée aussi de discuter de ça, ça partait quand même d'un hommage pour ses camarades qui s'appellent Fantino Tarnicole, qui a beaucoup participé et aux luttes de cette période-là, et aussi après raconter ce qui s'est passé à l'intérieur et continuer en tout cas à parler des tôles et des luttes actuelles aussi qui se passent dans les tôles italiennes. Et du coup, effectivement, si juste pour reprendre la question du début des années 70, c'est que j'avais un peu essayé de raconter un peu la semaine dernière, c'était que du coup, il y a un mouvement des prisonniers dans plusieurs tôles qui commencent à se développer et ils arrivent aussi un peu à se coordonner entre tôles, quoi. Et que à ce moment-là, il y a des revendications très concrètes qui sont liées à ces formes de lutte à l'intérieur, quoi. Et les revendications très concrètes, c'est vraiment aussi la possibilité de cantiner, l'effet d'avoir accès au réchaud et pouvoir acheter des pâtes et des trucs comme ça, hein. C'était vraiment des trucs très concrets. Et en même temps, même sur ces petites luttes, entre guillemets, petites luttes-là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de répression, quoi. Et il y a plusieurs morts, quoi, dans plusieurs tôles. Aussi parce que les flics ils interviennent et voilà, ils butent des gens, quoi.
Ouais, c'est un truc qui a l'air de se répéter. Enfin, juste je te coupe deux secondes, mais c'est pour dire que là, depuis un an, il y a eu beaucoup de révoltes dans pas mal de tôles en Italie, pas pour les mêmes choses, mais aussi pour des droits qui sont élémentaires, quoi, c'est-à-dire les liens avec la famille, le droit aux activités et tout. Et que ces révoltes-là, elles ont été réprimées de la même manière dans le sang, et que je crois que c'est 14 morts au moins qui sont recensés, et dont certains qui auraient été tués par balle dans l'intervention des keufs, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, par exemple, dans la prison de Modena, c'est exactement ce qui s'est passé en Italie aussi récemment, et dans d'autres prisons aussi. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi peut-être de ces moments-là, c'est que s'il y avait beaucoup de luttes sur des revendications concrètes liées au règlement dans cette prison-là particulière, il y avait aussi, enfin très rapidement, il y a un discours plus général qui se monte de la part des prisonniers en lutte, qui est de demander du coup l'abolition du code pénal fasciste qui était en vigueur à l'époque et qui est encore en vigueur en partie aujourd'hui, et du coup de demander la réforme des règlements intérieurs aussi.
C'est juste pour dire que en fait c'est quand même un truc qui reste en Italie, c'est qu'il y a une grosse partie de, enfin je sais pas si c'est une grosse partie, mais il y a une partie de tout ce qui est pénal et de la répression qui vient des lois fascistes et qui est toujours utilisée aujourd'hui contre les personnes qui s'organisent pour essayer de résister, quoi, que ce soit des sans-papiers, des militants, etc. quoi. Et que
tout à fait.
Et que là, ce dont tu parles, c'est des luttes qui ont lieu en 75, et donc genre plus de 30 ans après la soi-disant tombée du fascisme, quoi. En tout cas, l'outil répressif, il reste là, quoi.
Ouais. Ouais, ça continue aujourd'hui aussi, tu l'as dit. Hein. On pense à plein des choses là. Par exemple, il y a les délits de dévastation et saccheggio, qui est lié au, en gros, quand il y a des émeutes ou des révoltes et tout ça, il est beaucoup utilisé. C'est une loi fasciste à la base qui continue à être utilisée et contre les camarades ou aussi quand il y a vraiment des émeutes un peu spontanées aussi et dans l'étoile aussi, quoi. Voilà. C'était juste pour dire qu'il y a une continuité très forte avec la période de la dictature fasciste, quoi. Mais du coup, pour revenir un peu au mouvement qu'on a appelé un peu les damnés de la terre dans les prisons italiennes des années 70, effectivement, il y a ces doubles mouvements-là, hein, des revendications et sur des choses à l'échelle de la prison et plus, de manière plus générale sur les codes pénals. Et il y a beaucoup de répression, encore une fois, je le répète, parce qu'effectivement, enfin, même seulement en 1974, par exemple, il y a eu et à Florence et dans la prison d'Alessandria, vraiment plusieurs personnes qui se font tuer pendant ces luttes-là, pendant ces révoltes-là. Et en même temps, c'est un mouvement quand même très hétérogène aussi, qui touche vraiment presque toutes les tôles et qui, je l'avais dit la dernière fois, je pense que c'est important de le répéter, qui se base aussi sur le refus de la distinction entre prisonniers communs et prisonniers entre guillemets politiques, quoi. Ce moment-là, il y avait le refus de ces trucs-là. Mais du coup, bien sûr, l'État...
Moi, si je comprends bien, il participe aussi pas mal à faire en sorte de casser cette idée qu'il y a des prisonniers politiques et des prisonniers de droit commun.
Ouais. Sainte, en plus, c'était carrément les profils qui étaient au milieu entre les deux, quoi. Parce qu'effectivement, il est rentré avant... quelques années avant qu'il y ait les premiers prisonniers vraiment entre guillemets politiques liés aux luttes sociales de 68-69, etc., et qui est à l'intérieur pour braquage, quoi. Et en même temps qui a un discours politique très fort lié plus à la gauche révolutionnaire et tout ça, quoi. Et du coup, effectivement, sans doute lui, il circulait un peu tout le temps entre les différents groupes et tout ça, et ça, c'est un truc qui est reconnu aussi par les gens qui était en tôle avec lui, cette capacité aussi à ne pas se faire enfermer entre guillemets dans des organisations particulières qui continuent à exister aussi à l'intérieur des prisons et tout ça, mais de toujours mettre en contact, mettre en lien les gens, quoi. Mais je vais en revenir aussi parce que c'est intéressant, je trouve. Mais ce que j'avais pas dit la dernière fois, c'est que ce qui se passe à l'intérieur, c'est que du coup y a un gros rapport de force qui se monte dans plusieurs prisons, mais en même temps à l'extérieur, à partir du début des années 70, quoi, il y a quand même pas mal d'organisations qui s'intéressent à ce qui se passe en prison. Enfin, quand même beaucoup, quoi. Et au début, c'est seulement un journal qui s'appelait Lotta Continua qui faisait sortir un peu tous les communiqués des différents comités de lutte dans les prisons. Ça, c'était vraiment au début, quoi. Mais après, progressivement, il y a les premiers groupes de lutte armée qui se montent. Et pour ces groupes-là, la question de la justice et de la tôle aussi devient rapidement centrale, même si c'était pas du tout au début au cœur de leur lutte et tout ça. Par exemple, les Brigades Rouges, quoi, typiquement, il y a toute une première partie où ils sont de leur histoire qui était très liée aux usines et tout ça, mais dès qu'il y a quand même les premières opérations répressives et tout ça, ça devient une partie vraiment intégrante de leurs actions. Et aussi, un autre groupe dont on parle beaucoup moins, qui s'appelle NAP, qui était très lié à des populations aussi qui sortaient des tôles, quoi. Ouais, c'était vraiment beaucoup de...
Il y a un moment aussi où c'est la tôle qui influence, où c'est aussi un lieu de rencontre où il y a des groupes qui se forment et qui après vont influencer l'extérieur, quoi. il y a ces espèces d'allers-retours-là, j'ai l'impression qu'ils se font à cette époque. Voilà.
Ouais, tout à fait. Et vraiment, il y a un lien très fort avec, avec les prisons à ce moment-là. Et vraiment, effectivement, l'effet de passer par la prison, ça transforme aussi les revendications à l'extérieur, quoi. Ça, c'est important. Là aussi, il y a beaucoup de circulations et tout ça. Mais c'est pas juste que ça change les mots d'ordre ou ça change les discours. C'est qu'il y a carrément des attaques très directes aussi contre les juges, contre tous les gens qui dirigeaient les prisons à l'époque. Enfin, il y a des gens qui se font buter par des membres de ces organisations-là, qui essayent du coup avec ça de soutenir les luttes à l'intérieur, quoi. Et ça, c'était quand même quelque chose de très intéressant, dans le sens qu'effectivement, il y a un rapport de force qui se construit à l'intérieur, et à l'extérieur, il y a des gens qui bougent de manière aussi très directe, quoi, pour soutenir ces rapports de force-là. Et en même temps, encore une fois, bah, tous les gens qui se font arrêter, qui appartiennent à ces organisations de lutte armée, ils rencontrent du coup d'autres gens dans les tôles, et il y a pas mal des tentatives d'évasion collective ou effectivement des évasions aussi qui réussissent, quoi. Et vraiment au milieu des années 70, il y a beaucoup, quoi.
Peut-être j'avance un peu trop vite dans le temps, mais quand on en parlait tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une révolte particulièrement qui avait été en coordination avec l'extérieur, qui n'était pas emblématique, mais on ne va pas caricaturer, quoi. Genre, il y a sûrement eu plein de révoltes avant, mais du coup en 79, si je ne dis pas de conneries.
C'est 80, mais c'est pas grave. Ouais. C'est dans un tôle dans le sud d'Italie qui s'appelle Trani. Et là aussi, il y avait pas mal de prisonniers qui faisaient partie des Brigades Rouges et d'autres organisations de lutte armée. Et effectivement, ça, c'est un bon exemple de comment les gens ils se coordonnaient, malgré pas mal de surveillance sur ces prisonniers et tout, qui étaient bien sûr dans des conditions de rétention très difficiles, ils arrivaient à se coordonner avec l'extérieur. Et ce qui se passe là, pour le dire un peu rapidement, c'est qu'il y a une révolte à l'intérieur qui avait été quand même pas mal organisée en avance. Et les gens, ils arrivent à prendre carrément le contrôle de toute la tôle, quoi. Tous les étages et tout ça, pendant 2-3 jours. Et en même temps, à l'extérieur, les gens des Brigades Rouges, ils enlèvent un juge, quoi, qui était quand même très important dans la restructuration des prisons à cette époque-là, parce qu'il était un peu justement dans la direction des prisons auprès du ministère de la Justice, quoi. Et du coup, les deux mouvements en parallèle, ils avancent des revendications, et c'est pas anodin que ces revendications-là, ce sont des revendications sur les tôles, quoi. Du coup, il y a le mot d'ordre principal, c'est la guerre à la différenciation des peines, quoi, à la différenciation des conditions d'enfermement à l'intérieur, qui se développait pas mal à cette époque-là. Et aussi la fermeture d'une autre tôle, quoi, pas de celle où il y a la révolte, mais d'une autre encore, qui était une prison, comme on dit en italien, une prison spéciale, qui avait été mise en place 3 ans avant pour enfermer spécifiquement ce qu'ils appelaient du coup les prisonniers politiques, quoi.
Ouais, parce que du coup, il n'y a pas que la création en fait de quartiers spéciaux dans les tôles où on va faire le tri entre prisonniers. En fait, à ce moment-là, l'administration pénitentiaire italienne, elle décide de créer des tôles aussi à part pour ces gens-là, pour être sûr qu'il n'y ait vraiment plus aucun contact, quoi. Et c'est dire aussi un peu le moment de tension sociale en fait de ces années-là, où il y avait un vrai rapport de force dedans-dehors, quoi. Et où l'État, il met vraiment tout en place pour essayer de briser les élans de solidarité ou tout ça, quoi.
Bah oui, et du coup en fait c'est l'État qui réaffirme cette division entre prisonniers communs et prisonniers politiques. Et prisonniers politiques, ça devient vraiment un statut des conditions d'enfermement et des comment ils sont placés en détention, quoi. Et ça c'était justement pas longtemps après la réforme pénitentiaire de 1975, parce que c'était en 1977 où en gros ils ouvrent 5 tôles, quoi, et ils déplacent 2500 personnes, quoi, de toutes les tôles d'Italie, qui sont considérées du coup comme les politiques entre guillemets, et ils les met dans ces prisons là et une prison en particulier sur une île l'île de la Zinara qui est pas loin de la Sardaigne. Et du coup, c'était vraiment une île prison. C'était genre impossible de faire des parloirs. Enfin, les gens étaient complètement coupés, sans parler de comment ils géraient à l'intérieur. Hein, mais même seulement les rapports avec l'extérieur, ils sont vraiment mis au mal, quoi. Et du coup, quand il y a la révolte à 3 ans après, c'est la demande, c'est de fermer cette prison-là. Et effectivement, ils arrivent à la faire fermer. C'est-à-dire que grâce à ce double truc, révolte à l'intérieur et enlèvement à l'extérieur, ils arrivent effectivement à la fermer. Et du coup, je rajoute aussi un peu rapidement, juste pour dire qu'il n'y avait pas que les organisations de lutte armée qui s'intéressaient au toll, mais il y avait aussi pas mal des comités ou d'associations aussi des proches des prisonniers qui bougeaient pas mal aussi par rapport à ça. Et ils faisaient aussi pas mal d'actions, d'occupations aussi pour, bah, par exemple, pour arriver à pouvoir visiter les gens dans les prisons spéciales. Il y a toute une lutte aussi sur ça, quoi.
Ouais, à chaque fois, c'est des droits qui sont gagnés par la lutte et qui, enfin voilà, c'est des trucs qui aujourd'hui semblent normaux, mais parce qu'ils ont été gagnés il y a 30 ans par des proches. Et en fait, c'est un peu ce que tu racontais même là sur la question de quand il est à l'intérieur. En fait, c'est pas venu naturellement. C'est parce qu'il y a des gens qui se battent. C'est pareil sur la question des censures des journaux dans les tôles. En fait, c'est des gens qui sont battus pour que cette censure elle tombe, quoi. Et à chaque fois, il faut des gros mouvements et donc de la répression avec des gens qui vont prendre des peines internes, des morts, etc. pour que il y ait des trucs comme ça qui avancent et qui, des fois, sont remis en cause 30 ans ou 40 ans après, quand le rapport de force change, ou quand, par exemple, il y a le prétexte du Covid, par exemple, sur les parloirs, quoi. Avec, en Italie, enfin, l'instauration des parloirs visio, enfin, le truc de parloir par Skype, là, ou je sais pas quoi, qui est quand même un sacré délire, quoi. Qui, même si sur le court terme, peut être pratique pour des proches, en fait, dans ce que ça peut laisser envisager de... pour la suite, quoi, quand on sait qu'ils généralisent toujours un peu ce qu'ils font... Enfin, ce genre d'expérimentation, quoi, c'est... Voilà, enfin, vu que ça fait un an que ça dure, c'est toujours un peu inquiétant, quoi.
Ouais, carrément. Et bah, si, aussi, c'est pareil pour les JLD dans les centres de rétention et tout ça, enfin, tous ces systèmes-là des visioconférences, enfin, une fois qu'ils l'ont installé, il n'y a pas trop de raison de l'enlever, je pense, si justement, il n'y a pas des gens qui s'organisent et à l'extérieur, à l'intérieur, pour débloquer ça, quoi.
Ouais. Et du coup, là, il nous reste quelques minutes avant la musique. Et moi, je me disais peut-être, si toi, ça te va là, de peut-être plus passer sur après, parce qu'en fait, donc là, on parle des années 60-70, et en fait, il a continué de lutter, bah, ce que tu racontais la semaine dernière, jusqu'à, enfin, il était encore présent dans en soutien aux luttes qui sont passées dans les taux de la Modène, etc. Et du coup, il a continué de lutter contre les tôles et de faire vivre un peu cette histoire qu'il avait vécue, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, t'as déjà presque tout dit. Juste un truc rapide, c'est juste important aussi pour comprendre un peu les personnages. 1978, il y a l'enlèvement des Moro, qui était le président de la démocratie chrétienne, par les partis du gouvernement en Italie, c'était Brigade Rouge qui ont fait ça. Et dans les revendications pour libérer Moro, il y a une liste de 13 prisonniers politiques, du coup, dont on demande la libération, et lui, il faisait partie de ça. Même si lui, il faisait pas partie directement des organisations de lutte armée. C'était encore une fois parce qu'il était vraiment un personnage qui arrivait à discuter un peu avec toutes les fractions, tous les différents aussi composantes, quoi, de la population dans les tôles, quoi. Et du coup, voilà, il était très reconnu pour ça, et il continue à être très reconnu pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des petits trucs quand même qui se montent, même s'il y a les confinements et tout ça. À Bologne, le 25 avril, il y aura un petit truc pour, en hommage à lui, un truc un peu plus important en juin, en espérant qu'on sera un peu plus, voilà, qu'on pourra faire un truc un peu plus grand, quoi. Mais du coup, ouais, comme tu disais, lui, il reste quand même en prison sans se dissocier, sans rien du tout, sans rentrer dans les trucs de réduction de la peine, quoi, jusqu'à la fin des années 80. Et après, il est en semi-liberté pendant 10 ans. Et il est vraiment libre au début des années 2000. Et quand même, dès qu'il sort, il commence à raconter ce qui se passait à l'intérieur. Il continue aussi à écrire pas mal. Il écrivait... des bouquins un peu vite fait, mais surtout des poésies aussi. Il avait commencé quand il était en tôle aussi. Et ça, c'est un truc qui a jamais arrêté de faire. Et après, en plus que, du coup, rappeler un peu la mémoire de ce qui s'est passé pendant les années 70, il a quand même jamais arrêté d'observer aussi ce qui se passait dans les tôles aujourd'hui, quoi, et d'essayer de soutenir un peu les luttes à l'intérieur. Et du coup, il a fondé une association il y a quelques années, quoi, avec d'autres gens de Bologne qui s'intéressaient du coup beaucoup aux conditions d'enfermement et tout ça, et comment ça se transforme, tout ça. Et du coup, bien sûr, dès qu'il y a eu toutes les révoltes l'année dernière, et je pense que vous allez en parler aussi peut-être la semaine prochaine, non ?
Ouais, dans 2 semaines en tout cas.
Dans 2 semaines, mmh. Lui, il était là, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu ça.
Et merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps, parce que c'est des histoires dont nous on parle pas très souvent, mais en tout cas c'est important de faire vivre aussi ces moments de lutte. Et enfin, tout ce que tu racontes là sur ce que les prisonniers ont réussi à gagner. La fermeture d'une tôle, en vrai, c'est quand même des rapports de force qui sont énervés.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Ouais, et puis c'est des luttes qui sont aussi internationales, parce qu'en fait, elles se passent en France à peu près aux mêmes périodes. Il se passe quand même des choses un peu similaires, avec plus d'intellectuels que ce qu'il y a. Voilà, mais aussi, c'est ce que tu disais la semaine dernière. Enfin, après, il y a le CAP et tout ça. Mais il y avait aussi ce que tu disais la semaine dernière, c'est qu'il disait aussi les Black Panthers et autres. C'est pour ça qu'il s'était appelé les Damnés de la Terre, enfin Fanon. Et puis il disait Malcolm X, et puis Cleaver aussi, je sais pas comment. C'est ça exactement son nom, mais enfin voilà quoi. Enfin, ça fait partie de l'histoire des luttes de manière générale, quoi. Et c'est toujours important. Voilà, il y a des gens qui ont incarné ça à un moment, et c'est cool d'en parler, quoi.
Yes. Et encore une fois, lui, c'était pas du tout, lui et d'autres gens aussi, c'était pas du tout, comment dirais-je, un académicien ou un truc comme ça. Enfin, justement, tout ce qui, sur lequel il s'est formé au niveau des bouquins et tout ça, c'est en tôle qu'il a fait, quoi. Et parce qu'il y avait vraiment des groupes aussi d'études qui se montaient, et du coup, il gagnait aussi, il luttait aussi pour avoir ça et gagner des espaces aussi pour. Voilà, pour pouvoir lire, pour pouvoir discuter aussi des politiques et tout ça, quoi. Et ça, je pense que ça reste quand même très intéressant aujourd'hui aussi.
Carrément. En tout cas, merci beaucoup. Et à l'occasion, s'il y a des textes qui sont traduits de lui ou quoi, on essaiera soit d'en lire, soit d'en reparler. Et peut-être que voilà, en juin, on refera un petit big up au moment de s'il se passe des choses à Bologne.
Yes.
Voilà. Merci beaucoup pour le temps. Nous, on va passer
merci à vous.
On va passer un tout petit peu de musique avant de revenir.
Seen some shit within my lifetime. My light shine bright. Protect your energy from poison when a python strike. My first mistake was doing robberies on Nikon bikes. Watch my moves and I'ma show you what an icon like. Y'all let bygones be bygones, right? Nigga, fuck your truce. Bust your move. And if that nigga touch your shoes, you better blast on him. And know my mama, nigga, I'ma get that cash on him. 100 on a dash on him. Swerve. Born from the trench, you from the burbs, nigga. Fuck the early bird, nigga. I'ma get this motherfucking chicken. And if a nigga ever got a problem, nigga, we can fucking solve it. Oh, my mama, nigga, I just been itching to prove myself. I just pray throughout the struggle, I don't lose myself. Glock, no safety, plaques and coat, I might shoot myself. They catching bullets like two Odells, and nigga, you gon' tell. But I can tell you about the time was going hard up in the paint, and I can tell you shit that other niggas can't. Let me tell you, I can tell you about the time I had to drop a nigga rank, and I can tell you shit I did up off the drink. Let me tell you, I can tell you about the time I signed a deal for 20 bands and used that shit to get my brother out the can. Let me tell you, I can tell you about the time I had a penny in the plan. I can tell you shit, but you won't understand. Let me tell you, first nigga. And foremost, for every door that's open, the door closed. Be the nigga, take his Bordeaux's, upgrade my wardrobe, and Lord knows, living like this, it leads a short road, a dead end, or prison time where we was heading. Instead, when I got bread, broke it with brethren, eyes open, leave the house, move like a veteran, made a couple dollars from commas, my niggas flexing. Nigga got a problem that I can make some corrections. Okay, cool, still with the same nigga since grade school. Give a fuck about your shade room when I had made room for everybody on that late moon. And
giving word to race room. Had to bring the motherfucking swank on them. And I ain't even wanna had to blank on them. That lamb truck got a full tank on them. But a nigga better not look at me wrong. It's certain shit that I can't say on this song. But let me tell you, nigga, I can tell you about the time I was going hard up in the paint. And I can tell you shit that other niggas can't. Let me tell you, I can tell you about the time I had to drop a nigga rank. And I can tell you shit I did up off the drink. Let me tell you, I can tell you about the time I signed a deal for 20 bands and used that shit to get my brother out the can. Let me tell you, I can tell you about the time I had a penny in the plan. I can tell you shit, but you won't understand. Let me tell you, nigga.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05.
Non, plus du tout. Bon. Ça a changé, mais en tout cas là pour aujourd'hui, il y aura peut-être pas d'autres appels, mais parce qu'on n'a pas le numéro là du direct. Mais pour nous appeler le reste de la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Et je répète juste une dernière fois, c'est au 07 52 40 22 48 pour nous écrire.
Il n'y a plus de direct alors.
C'est au 1 rue de la Solidarité, 115-019 Paris.
C'est un numéro trop compliqué dont on ne se rappelle pas. Mais donc voilà.
Parce que c'est des menteurs. Moi, je ne porte pas le mensonge. Bon, sinon, on fait quoi maintenant alors ?
Et du coup, là, on va vous parler de Philippe Chanoui, ce qu'on disait dans le fil de l'émission, si tu avais écouté.
Et oui, je n'ai pas écouté. Je suis sénile, il l'a dit tout à l'heure.
Et du coup, donc, ce qu'on disait, c'est que c'est quelqu'un qui a fait 38 ans de prison. Donc, on l'accuse d'un braquage en 75 sur une agence du CIC. Il se fait juger 2 ans plus tard et il prend perpétuité, si je ne dis pas de...
Sur un braquage où le butin n'a jamais été retrouvé.
Le butin n'a jamais été retrouvé. Il n'y a pas une mort côté protecteur de l'argent, quoi, qu'il soit keuf ou pas keuf. Et pour ça, il prend perpète.
Et il obtient une condi. Voilà, et ça ne se passe pas trop mal, sauf qu'il va voir son fils... à Paris, et il était interdit de territoire de Paris, donc il avait déjà passé 15 ans en tôle, ce qui est déjà beaucoup trop. Et voilà, juste pour dire, Philippe, ça fait il est passé très longtemps à cette antenne. Quand il est sorti et tout ça, on va raconter cette histoire. La dernière fois que, en tout cas, moi je l'ai croisé, c'était il y a 5 ans. Les bails de tôle, il faisait sa vie à l'extérieur, normal et tout ça. Il a pas mal œuvré à sa sortie de prison et tout ça. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites avec lui sur les longues peines. Nous, on s'était rencontrés à l'intérieur au moment où il va obtenir une semi-grâce présidentielle. Mais donc, on va y revenir. Donc en 90, il va voir son fils pour son anniversaire, et à ce moment-là, il le chope parce qu'il avait pas le droit d'être sur Paris, et il le refout à l'intérieur. On voit toute l'ignominie de la justice, quoi, qui n'a aucun sens. Enfin, il avait déjà fait 15 ans et tout, quoi.
Ouais. Puis là, faut dire qu'en fait, c'est pas ce qu'on raconte pour lui. En fait, c'est juste que c'est un exemple très révélateur, mais c'est un truc qui se passe tout le temps. Des contrôles judiciaires absurdes, des proches qu'on ne peut pas aller voir parce que sinon on peut se faire arrêter. Enfin voilà, c'est juste des pratiques hyper courantes de la part de la justice. Et c'est fait pour que tu craques. Et en fait, c'est fait pour qu'on puisse te répéter. Et qu'en tout cas, si tu vas revoir tes proches, tu ne puisses pas en profiter pleinement, mais que tu aies quand même le stress et l'appréhension. Et que tes proches, ils aient aussi la culpabilité de te voir. En fait, c'est l'espèce de truc où on essaye de te rendre ton propre maton. Et tes proches, t'es ton maton, quoi, à leur tour, quoi.
Et puis c'est aussi le truc de, la peine de mort a été abolie, mais en fait on préférait vous abattre, donc en fait on va vous garder sous la main tout le temps et vous n'allez pas choisir ce que vous allez faire, quoi. Et donc là, tous ces juges, en fait, qui ont pris toutes ces décisions là, en fait, c'est qu'ils n'ont plus le pouvoir de la peine de mort, et donc en fait ils décident de l'appliquer ailleurs, leur petit pouvoir de contrôle des individus, quoi. Et en 97, il va s'évader. Il va faire sa première évasion, il va être retopé quelques temps plus tard, et comme d'hab, une évasion ça coûte son petit pognon, et donc il lui rajoute sur la gueule plein de trucs. Après, derrière, il va passer 5 ans en hôpital psy
jusqu'en 2004. Il va passer 5 ans, donc de 99 à 2004 en hôpital psy, alors qu'il n'y a aucune démence et tout, quoi. C'est juste qu'en fait, il se laissait pas faire à l'intérieur. Et là, le personnel soignant le voit s'évader, en fait. Voilà. Sauf qu'en fait, il est bourré de médocs. Et il se traîne dehors, mais de ouf. Et il y a un des médecins ou infirmiers, enfin, je sais pas, mais en tout cas, un des gens du personnel soignant, en fait, qui le laisse s'évader. Voilà, en disant, en fait, si ce type, avec ce qu'il a comme médoc dans le corps, il trouve la force de se barrer, c'est que, en fait, c'est au-dessus de tout et faut qu'il parte, quoi. Et voilà. L'humanité que peut avoir certaines personnes, les juges ne l'ont pas. Et donc, un an plus tard, ils vont leur choper le jour de la Saint-Valentin, où il va retrouver sa femme, Martine. Voilà.
Ouais, parce que le truc, c'est ce que tu disais, Sylvain, en tout début d'émission, c'est que là, on n'a pas fini encore l'acharnement de l'État. Mais par contre, en fait, il y a une proche aussi qui est avec lui. Et du coup, là, dans tout ce qu'on raconte... En fait, c'est aussi quelqu'un qui prend l'enfermement avec la personne parce que c'est des transferts de tôle en tôle. C'est aller à l'HP pour poursuivre son
propre. Il a fait, j'allais le dire à la fin là, mais il a fait 20 établissements. Sa femme, elle a déménagé à chaque fois. Et ils l'ont changé 40 fois de tôle.
Non, il faut savoir que c'est une personne qui n'avait jamais connu la prison avant de connaître Philippe et qui n'a jamais, jamais, jamais lâché son mari. Qui a toujours été présente à tous les parloirs qu'elle a réussi à obtenir, quoi. Et c'est franchement, c'est
incroyable.
Chapeau à cette femme. Vraiment.
Donc là, il le récupère et donc là, il est soi-disant libérable en 2032. Donc là, on est en 2005. À l'intérieur, il va continuer à se battre de ouf. En 2011, il arrive à faire condamner la France auprès de la CEDH pour traitement inhumain, parce qu'en fait, il lui avait réservé un petit traitement particulier. Bon, déjà, en tout, sur les 38 ans de tôle qu'il a fait, il a passé 16 ans à l'isolement. Surtout, à cette période-là, il le fouillait à nu, en le filmant, et il le fouillait 4 à 8 fois par jour. Voilà. Donc là-dessus, il a réussi à faire condamner la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, la France, par la Cour européenne des droits de l'homme.
Ouais, et là, c'est pareil. Enfin, juste, je pense que c'est important, parce que quand tu dis rapidement 4 à 8 fouilles à nu par jour,
non, mais c'est
faut se rendre compte de la violence du queutru, quoi. En fait, du niveau d'humiliation que ça implique, et de comment ça veut dire qu'il y a une volonté de la part de l'administration pénitentiaire de détruire cette personne. Parce qu'après, dans l'émission, on va continuer sur les morts en prison, etc. Mais en fait, c'est exactement ce genre de truc. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des matons qui tuent. Hein. Ça arrive, etc. Mais il n'y a pas besoin de ça.
La destruction spécialement. Psychologique
Ils ont
et
tout un tas
l'humiliation.
D'outils. Et c'est ce que tu racontes. Et en fait, ça, juste, c'est systémique. Ça veut dire que c'est genre, ça se passe dans toutes les tôles. Et enfin, en tout cas, dans beaucoup de tôles. Et que c'est genre vraiment des matons qui appliquent une nouvelle vengeance en plus de la peine de prison, quoi.
Surtout qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore la loi qui dit que les fouilles systématiques sont avec cette loi-là, elle est pas, c'est pas, ils arrivent à passer au-dessus de des lois. Mais alors là, c'était une zone de non-droit, mais sans nom.
Clairement, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Et donc c'est en 2012, moi je crois que c'est à peu près cette période-là qu'on se rencontre et tout. Et ce qui était assez ouf quand même avec Philippe, c'est que c'est ce truc qu'il avait de... Enfin, après tout ce qu'ils lui ont fait, il y avait un truc de résistance, et il se met en grève de la faim, où il dit « c'est un suicide ». Je me mets en grève de la faim, mais dans un suicide, parce que là, faut me laisser sortir. Je ferai pas une année de plus, quoi. Et là, à ce moment-là, il y a un comité qui se met en place, principalement autour de Florence Aubenas, qui est une journaliste, et qui arrive. Il y a des gens de tout horizon et tout ça, mais qui signe une tribune en disant que il faut qu'il y ait une amnistie pour lui, et dans lequel ils disent très clairement, ils parlent de peine de mort, peine de porc aussi, mais peine de mort qui ne disent pas leur nom, quoi. Et donc, à ce moment-là, il y a vraiment ce truc et qui est tenu. Enfin, voilà, il y a des gens de droite qui signent ce truc, mais il y a vraiment ça. Et là, à ce moment-là, bien sûr, Taubira et Hollande, qui doit signer la grâce, ils n'ont pas d'honneur, quoi. Donc voilà. Donc en fait, ils ne vont pas faire une vraie amnistie. Voilà, parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais juste, enfin, je pense simplement parce qu'ils n'ont pas d'humanité. Et donc en fait, ils font une fausse amnistie qui le place en position d'être conditionnable. Et donc, sa peine, elle n'est pas supprimée. Donc, il est toujours libérable en 2032. Enfin, voilà. Mais sauf qu'il peut passer la conditionnelle. Et donc là, à ce moment-là...
Pour poser une conditionnelle, il faut un travail, il faut fournir des papiers, il faut fournir une attestation de domicile. Et sa femme, à l'époque, fait une attestation de domicile chez elle, bien évidemment. Et vous savez ce qu'on lui demande ? On lui demande de justifier 30 ans de salaire parce qu'ils n'ont toujours pas retrouvé le butin. Ça veut dire qu'ils ont indirectement accusé sa femme d'avoir vécu avec le butin qui n'avait jamais été retrouvé. Elle a dû justifier 30 ans de salaire.
Oui, parce que juste pour dire là dans ce que tu dis, en fait, il n'y a pas qu'un manque d'humanité. Il y a aussi, en fait, c'est quand même des trucs où on envoie un message très clair aux gens qui luttent à l'intérieur et quelqu'un qui a résisté à plein de types d'enfermement. Qui en fait juste, même s'il y a du soutien dehors, même s'il y a du bruit, on va lâcher le minimum. C'est-à-dire, ok, tu vas avoir cette semi-grâce présidentielle chelou, mais en fait, tu n'auras pas de libération totale, l'État ne te lâchera pas, quoi. C'est et c'est un vrai message qui est envoyé pour tous ceux qui sont encore dehors, encore dedans, et qui luttent, et qui n'ont pas le comité de soutien, etc., quoi. Enfin, c'est pas juste un manque d'humanité, quoi.
Et puis, il luttait pas seul tout, quoi. Enfin, nous, quand on se rend compte, en fait, c'est à Poissy, et c'est lui, en fait, qui est à l'intérieur... fait en sorte qu'on arrive à avoir une réunion collective avec les prisonniers sans qu'il y ait les SPIP et puis les prisonniers qui viennent. Enfin voilà, il y avait un vrai truc quoi. Enfin où il était pas seul tout aussi à l'intérieur quoi. Et il essaye d'organiser collectivement aussi des trucs quoi. Bon là c'était pour faire des activités, c'était pas de la lutte, mais voilà c'est quand même se créer des espaces de liberté collective à l'intérieur du truc quoi.
Il n'y a pas de petite lutte en prison et que tous ces espaces là ils sont hyper importants.
Ouais parce que dans ces espaces là c'est des endroits où on parle comme si on n'était pas en prison. On peut se permettre de le faire, en tout cas.
Et donc, il doit passer par le CNE, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Donc,
il passe par Fresnes.
Il passe par Fresnes. C'est de là dont il sortira. Mais donc, en fait, enfin, voilà, c'est pas... Enfin, tous les journaux à l'époque, je me rappelle, ils ont titré la grâce accordée et tout ça. Enfin voilà, mais que dalle, il n'est pas du tout sorti à ce moment-là. Il a dû supporter tout ce que les prisonniers longue peine doivent supporter pour pouvoir sortir, les passages devant le CNE et tout. Là, ce que tu racontais par rapport à Martine, enfin des dingueries quoi. Et voilà. Donc quand il est sorti, je pense qu'il a dû venir à cette antenne. Il a fait des réunions en tout cas avec.
Il a téléphoné, mais savoir que quand il est sorti, il pouvait même plus sortir de la prison tellement que c'était bondé de journalistes à l'extérieur et que arrivé un moment, il a dit ouvrez-moi les portes là, c'est bon, faites-moi sortir. Et il a été interviewé à la sortie de Fresnes. Et tout ça pour dire que tous ces journalistes, ils étaient où pendant toutes ces années d'incarcération ? Et qu'encore une fois, c'était le bon scoop et c'était au premier qui l'interviewait sans se soucier exactement de ce putain de contrôle judiciaire qu'il avait derrière, qui était immonde.
Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'il a raconté après derrière. Qu'en fait, ils lui ont mis un contrôle judiciaire complètement incroyable, qui n'était pas tenable, en fait, par rapport au métier qu'il avait. Avec des horaires qui n'étaient pas possibles et tout. Ils lui ont assez rapidement adapté. Et quand on dit assez rapidement, c'est quelques mois. Donc, quand tu sors, c'est pas vivable, quoi. Enfin, voilà. Mais voilà. Et il est passé dans quelques grands médias et tout ça, où il raconte cette sortie, tout ça. Et c'est marrant parce qu'il y a des passages qui sont assez ouf où ça y est, le juge vous a libéré. Et puis là, il reprend direct en disant non, non, c'est pas du tout un juge qui m'a libéré. C'est le comité de soutien, la grève de la faim, tout ça. En fait, il sait très bien que les juges, ils lui ont pas fait une fleur. Les juges, ils ont été obligés par la pression et tout ça. Et voilà, et il lâche pas ces trucs. Enfin voilà, et d'entendre ça dans les grandes radios nationales, ça. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais là, putain, ça fait plaisir à entendre parce que il tenait le truc, quoi.
Ça, vous pouvez le retrouver. Il suffit de taper son blaze sur Internet et on peut trouver
assez vite, quoi.
Pour celles et ceux qui ont accès à Internet.
Et voilà. Et donc, bah, après, il vit sa vie, quoi. Tranquille, il s'éloigne aussi un peu des bails de la tôle et tout, normal, quoi.
Dans les contraintes de son contrôle judiciaire, quoi.
Ouais, dans les contraintes, mais qui s'était allégé, tout ça, enfin, voilà, quoi. Et là, il doit se lancer dans une nouvelle formation, en fait, il y a un an. Voilà, et il y a un petit retard à l'allumage et tout ça. Et entre-temps, pour pouvoir gagner un peu de thunes, il a une proposition d'emploi en Espagne. Et voilà. Et donc, ça a accepté une première fois. Il n'y a pas de souci. Mais donc, tu dois encore écrire à ton juge pour demander est-ce que j'ai le droit d'aller travailler en Espagne et tout ça. Voilà. Il est obligé de s'y contraindre, il y a le Covid, ça retarde le truc de quelques mois, l'autorisation qui était donnée, elle était donnée sur une période trop courte, elle n'est plus valable, il refait une demande, et là, à ce moment-là, le parquet décide de faire appel. Donc ça veut dire, on sait comment ça se passe, tu fais appel, donc ça veut dire que tu n'auras pas la décision avant deux mois, sauf qu'en fait c'était là maintenant qu'il devait aller bosser. Il avait besoin de thunes et tout ça. Ça fait 10 ans qu'il est dehors.
Qui se tient à son parcours.
Enfin voilà, qui supporte encore tous les trucs, qui tient tout, quoi. Et là, bah bien sûr, les juges qui peuvent pas accepter qu'il soit dehors décident de porter, enfin de contester, fait une demande de suspension de la libération conditionnelle.
Okay, ils veulent leur enfin, il y a le coup de pression de leur envoyer en tôle, quoi.
Bah, c'est ça. Ou en fait, ils font appel, et donc ça veut dire qu'ils pouvaient se retrouver en tôle. Donc là, la décision a été rendue il y a une ou deux semaines de dire non, c'est bon, en fait, voilà. Mais on voit, enfin, c'est vraiment le truc classique, quoi, mais qui est horrible, de les juges, ils acceptent pas que tu sortes de leurs mains, en fait. Enfin, voilà. Et c'est un truc de ouf. Le gars, il va travailler en Espagne. Enfin voilà. Et puis,
laisser le vivre, quoi. Il a été à un moment
donné. À l'époque, quand je le rencontre, j'ai passé moins de temps sur la terre, quoi, que tant lui, il avait passé en prison, quoi.
Bah, ça a été un des prisonniers qui a fait une des plus grosses peines.
C'est une dingue. Et il continue à faire une peine, en fait. Parce que là on dit qu'il est dehors et tout ça, mais en fait, non. Il est encore sous c'est eux qui doivent choisir sa vie, quoi.
Oui, il était sorti sous contrôle judiciaire à l'époque avec un bracelet électronique et des horaires
de ouf.
Il devait rentrer à 15h, je crois.
Le week-end.
15h le week-end et 18h la semaine.
C'était de la folie, quoi. Et donc, voilà. Et donc, il expliquait bien aussi tout le truc de bah, attends, on dit des longues peines et tout ça, faut se réinsérer et tout, mais vous lui donnez jamais la possibilité de. Voilà, et vous mettez des conditions qui sont trop fortes. Bon, en tout cas, voilà, on souhaite plein de force à Philippe et aussi à tous les longues peines qui sont sortis dehors. Enfin, je pense à Raled, par exemple,
dernièrement.
Voilà, où en fait, c'est pas parce que t'es dehors que ta peine, elle est finie. Et là, c'en était un bon exemple, quoi.
Ouais, et au contraire, et plutôt depuis quelques années, il y a de plus en plus de trucs qui permettent de continuer à mettre la pression sur les longues peines, voire à les renvoyer en tôle, voire à ne pas les faire sortir. Mais bref, tout ça, on continuera de le développer dans d'autres émissions. Là, on va vous passer un tout petit peu de musique et on va revenir sur le témoignage du maton dont je parlais en début d'émission.
Across the street, above the green in the flat with the colourful curtains, Alicia's wrapped in her blankets. Head leant back on the wall, she's gripping her knees, looking for purpose, shaking and nervous. She keeps a brave face on all day long, but now the brave face is gone. Something in the changing seasons prickled in her skin all day, sucked her back through time and left her feeling far away. He was in her dream. She hasn't dreamt of him for months. She's so tired when she sleeps, she doesn't really dream at all. But there he was, holding his belly, blood on his shirt. She heard him scream her name, and then she saw him fall. Alicia wipes her face and whispers to herself, was just a dream. She sniffs and nods and dries her eyes. She checks the time. It's 4:18. It's a strange thing, your face seems to fade with the changing seasons. Then for some reason it comes back more present than ever. Well, not your face really, more a sense of you. Even though I know it's happened, it's no more comprehensible than if it was an abstract thing, someone else's friend. Are you asking me for something? Is there something I should do? It's hard on your mother, she lost your little brother too. But your sister's doing good, man, she's smart, smart like you. And she'll finish her degree next year, try and find a job. I suppose she's got her head screwed on, right? You don't have to worry. Is there something else though? I mean, if there is, I'm sorry, because I can't really think what you might want from me. I heard your voice about it, won't you? I don't believe in ghosts. Work's fine, life's good, Ty's nearly four now. Smart enough to walk round and hear what I don't say. The night it happened is vivid in my brain, it won't fade. Life is long still, some things don't change. Nice to fall in love again, but that ain't gonna happen soon. I'm trying to get some money saved, fix up the living room. Nearly got in trouble, I got angry with my manager. There's this young girl who works with us, he tried to put his hands on her. It's such a waste, so many idiots alive and kicking. Why'd it have to be the only sane man in town? Well, I'm probably only saying that cause you're not around. But I'm keeping my chin up though, I don't let it get me down. I heard your voice aloud, it woke me up. I don't believe in ghosts. You're with me all the time. I think I know you better than I did when we were hanging out together. What's it like?
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. On a coupé la musique un petit peu brutalement, mais c'est parce que on a encore un long programme devant nous. Et on va, on voudrait s'y tenir et s'y coller au plus vite.
Ouais. Du coup, pour celles et ceux qui ont accès à Internet, il y a un témoignage un peu long qui va sortir sur le site de L'Envolée, là, ce soir ou demain. Et truc un peu particulier, c'est qu'en fait, c'est un maton donc, qui s'appelle Pierrick Legendre, qui nous a appelé, qui nous a contacté il y a quelques mois. Et en fait, ce maton, il a témoigné dans l'histoire de Jean-Christophe Merlet, dont on a pas mal parlé ici à l'antenne depuis le premier confinement. C'est-à-dire un prisonnier en fait qui se bat pour faire sortir une histoire. L'histoire, c'est des matons qui sont connus pour leur violence, qui tuent quelqu'un en fait à la maison de Saint-Martin-de-Ré, qui est Sambali Diabaté. Et depuis, donc il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Et sauf que, en fait, comme on le rappelle souvent ici, c'est souvent des prisonniers qui font sortir cette histoire. Pour ça, Jean-Christophe Merlet, l'administration pénitentiaire va essayer de lui faire payer très cher. Par des violences, par aussi le fait que vu qu'il est en situation de handicap, on va toujours le mettre dans des situations où ça va être galère d'aller dans la promenade, galère d'aller au parloir, galère d'aller en activité, etc. Et du coup, donc ce que je disais, c'est que voilà, lui, il continue de subir cet acharnement. Il est toujours enfermé en fait, Jean-Christophe Merlet, et il continue de se battre aussi pour que cette histoire elle sorte et qu'on en parle. Du coup, on va vous lire un peu le témoignage de ce maton. On va le commenter en même temps. Donc on va essayer de faire bref. On va essayer de faire en 20-25 minutes. Bon, c'est un peu long, mais pour nous, ça va être bref, quoi. Comme on disait, c'est un peu particulier pour nous de publier ce témoignage. Déjà, un truc, c'est pour dire que pour nous, il n'y a pas besoin de ce témoignage pour légitimer la parole des prisonniers. Voilà. Les prisonniers prennent le risque de faire sortir ces histoires-là. On les croit et on continuera de les croire. Par contre, on pense que c'est sens dans les procédures judiciaires, que ça peut apporter quelque chose à des familles qui se battent. On l'a vu, par exemple, même là pour la famille de Jimoni, le fait qu'il y ait des matons, même si c'est de manière anonyme, qui témoignent. En fait, c'est important aussi dans le combat des familles. Et on espère que le fait de rendre ce témoignage public, ça va aussi forcer un peu la justice à le prendre en compte dans la situation de Sambali, quoi. Enfin, dans le dossier de Sambali, donc, qui, je rappelle, est mort, tué par des matons à la prison de Saint-Martin-de-Ré en 2016. Le 9 août 2016, pour être précis. Donc là...
Et juste pour rappeler où est-ce que ça en est pour Sambali, c'est que là, pour l'instant, on est sur les chefs d'accusation et ils sont en train de mettre homicide involontaire.
Ils sont en train de requalifier les faits.
Requalifier les faits. Et donc, on ne parle plus de violence volontaire, tout ça, alors qu'ils l'ont quand même bâillonné, alors quand même qu'ils l'ont... Enfin, voilà, on ne va pas tout revenir sur ce qui s'est passé. On reprendra le temps à l'occasion. Il y a l'interview de Oumou qu'on a fait il y a quelques semaines, que vous pouvez aller réécouter. Mais voilà, quoi. C'est en ce moment, et c'est important, voilà, parce que ça c'est en train de passer à la Cour de cassation d'instruction. Voilà, et donc, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est parce qu'on est dans un rapport avec les familles qui pensent que c'est important. Voilà.
Ouais, et puis bon, on a déjà commenté ici des fois des paroles de, de directeur de la paix, etc. Et du coup, là, on va aussi commenter ce qu'il raconte. Et pour dire, il y a aussi, on en parle dans le dernier numéro, le numéro 52, il y a plus d'une page qui est là-dessus, qui raconte très bien cette histoire. Et donc là, ce que je disais, c'est que c'est un maton qui nous contacte, qui s'appelle Pierrick Legendre, qui a été maton pendant plus de 23 ans, donc avant de démissionner, donc suite un peu à cette affaire-là, quoi. Et qui a été à la CGT pénitentiaire, bref, qui est un syndicaliste, donc très corporatiste, quoi, enfin, qui défend sa corporation. Mais par contre, en fait, même malgré son discours corporatiste, ce qu'il raconte est genre totalement... je vais pas dire totalement dingue, parce qu'en fait, on le sait très bien, et on relaye ici tout le temps des paroles de prisonniers qui le disent, mais ça montre très bien un peu comment c'est très clair à l'intérieur du côté des matons ce qui se passe, et comment tout leur discours, des fois un peu innocentiste ou je sais pas quoi, ne marche pas du tout, quoi. Donc...
Et puis, la CGT pénitentiaire, c'est ceux qui viennent de faire le communiqué de presse Briser l'Omerta, là, ou enfin, non, je ne sais plus comment. Credo Lulage, pardon.
Pour
mettre la pression sur un surveillant qui avait témoigné.
Sur un des surveillants qui a témoigné dans l'affaire de Gimouli.
Ouais, après, il y en a eu d'autres, quoi.
Et donc, voilà.
Juste, Gimouli, dont on parle, c'est un prisonnier qui est mort à Meaux.
Tabassé
par des matons. Et donc là, on va revenir sur des morts en prison, mais comme on l'a dit longuement pendant l'émission, tous les morts en prison, c'est pas que de la violence des matons. La prison, elle tue aussi en général par manque de soins, par l'enfermement, par toutes les humiliations et les tortures qu'on a pu décrire avant. Juste pour dire, du coup, la Sylvia, quand elle va parler, elle va poser les questions au nom de l'envolé, et nous, on va se répartir la parole de la réponse du maton, quoi. On va se filer la tâche relou, là, tous les trois. Et du coup, Sylvia, elle fait l'envolé, et nous, on répond, et on va essayer de commenter aussi un peu ce qui est dit, quoi.
Alors, on va commencer. Vous connaissez Jean-Christophe Merlier, puisque vous étiez surveillant quand il était prisonnier à Saint-Martin-André. Monsieur Merlier a été roué de coups par les surveillants en 2016. Il a porté plainte et vous avez accepté de témoigner.
Oui, j'ai croisé Monsieur Merlier sur les coursives quand j'exerçais du côté caserne. Concernant les violences sur Monsieur Merlier, je n'étais pas présent. Par contre, j'ai pu constater des attitudes à son égard qui n'étaient pas particulièrement... On va dire que c'était quelqu'un qui n'était pas aimé de la direction ni des surveillants. On va dire qu'on n'a pas été très aidant avec ce détenu qui a dû faire de son... qui, du fait de son handicap, avait des problèmes pour se déplacer. Il avait été placé au deuxième étage, sachant qu'il n'y a pas d'ascenseur. Rien que le déplacement quotidien vers une infirmerie, une cour de promenade ou une cabine téléphonique lui posait des soucis. Il y avait sûrement plus judicieux.
Ça, c'est de la responsabilité de la direction.
Oui, tout à fait. Et par le biais des infirmières qui auraient pu en justifier la nécessité. Mais donc juste pour dire, en fait, non, enfin là, c'est ce qu'on racontait deux secondes avant, en fait. C'est-à-dire que la personne, elle est handicapée, elle ne peut pas se déplacer elle-même pour aller à la coursive, par exemple, pour aller en promenade ou pour aller à la cabine. Et en fait, du coup, avant même qu'il y ait ces embrouilles-là où il dénonce la mort de Sambali, en fait, il le plaçait déjà au deuxième étage. Ce qui veut dire qu'en fait, déjà, le gars, il devenait dépendant de l'administration pénitentiaire et du bon vouloir des matons pour n'importe lequel de ses déplacements, quoi. Ce qui est toujours le cas en général, mais là, pour que son déplacement puisse se faire concrètement, quoi, physiquement. Enfin, voilà, juste pour dire un peu le niveau, quoi.
À l'époque, la direction de l'établissement vous avait demandé des renseignements sur ce prisonnier.
Oui, ce personnage étant issu... personnage, ça me fait halluciner. Étant issu du milieu des motards, dont je suis moi-même assez proche, la hiérarchie a essayé de tirer le fil dans ce sens-là, mais j'ai refusé. Et ça s'est vite retourné contre moi et contre lui après ma démission.
Ça arrive souvent qu'une direction demande des renseignements à son personnel, en plus de tout le dispositif d'écoute et de lecture des courriers ?
Oui, ça se demande souvent, officiellement, mais pas de manière écrite.
Pour Jean-Christophe Merlier, son tabassage est prémédité ?
Sans certitude aucune, mais il y a eu un incident ce jour-là entre le personnel et Merlier, sur un litige d'ailleurs un peu sombre ou trouble. En revanche, la proximité entre M. Merlier et M. Diabaté et certaines prises de position qu'il a pu avoir ont pu irriter, et peut-être qu'il y a eu un surdosage d'agressivité de la part de certains personnels.
Ouais, juste alors là... avant qu'on continue là sur la question genre de l'agressivité et tout, juste pour dire sur en fait, il y a souvent des gens qui parlent de des bons matons ou des bons keufs en cra qui sont genre crariés plus compréhensifs, etc. Mais c'est, ça tient aussi à ces logiques là, quoi. C'est à dire qu'en fait, il y a tout un truc de ok, il y a les renseignements de l'administration pénitentiaire qui écoute, etc. Mais en fait, le maton qui joue le gentil, la moindre info que tu peux lui lâcher, si c'est pas déjà une demande de l'administration, en fait, parce que c'est ce qu'il raconte. C'est-à-dire, on voit que ton profil école, on te dit va faire la poteau-poteau avec lui et tu nous racontes ce qu'il dit. Si en fait, à l'inverse, tu dis quelque chose à un maton, il le remontera de toute façon, c'est son taf.
C'est sûr.
Et c'est comme ça qu'il gagne ses thunes, quoi. Mmh. Donc, c'est juste pour dire un peu aussi les fonctionnements qui sont qui met un peu en avant dedans, quoi.
Et là, juste, il faut rappeler aussi la parole de Jean-Christophe Merlet, c'est pas du tout un surdosage d'agressivité. Hein. C'est un tabassage en règle, voilà, qui décrit, quoi.
Mais quand ça s'est passé, vous avez été interrogé pour M. Merlet ? Comment ça s'est passé quand vous avez été interrogé pour M. Merlet ?
J'ai été convoqué à la gendarmerie. Ils sont très conscients de la problématique pour M. Merlet. Ils ont pris note qu'il y avait eu des manquements et que certaines personnes avaient essayé de mettre des zones d'ombre et qu'on a positionné des lampistes, c'est-à-dire des personnes pour se faire péter, quoi, à certaines places pour essayer d'adoucir la responsabilité de certaines personnes qui sont relativement intouchables. Et il y a la loi du silence.
Là, c'est peut-être important de rappeler aussi comment ça se passait dans cette tôle, quand même, parce que c'est quand même vraiment un truc de ouf. Il y avait des équipes de matons en particulier qui étaient ultra violentes, qu'on fait des petits après derrière, qu'on a raconté.
Ouais, ils étaient sept, un truc comme ça. Il y avait.
Ouais. Et c'était vraiment des gueudins. Il y a même un directeur à l'époque qui a démissionné en disant bah non, en fait, c'est pas possible et tout. Voilà. Et faut voir aussi que, en fait, s'il témoigne, c'est aussi qu'il y avait des combats entre syndicats. C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe, c'était une équipe de syndiqués. Voilà. Et que lui, il faisait partie d'un autre syndicat. Voilà. Mais à l'époque, c'était quand même vraiment une dinguerie.
Ouais.
Ça l'est toujours. Hein. Je veux dire,
qu'il y a toujours une équipe.
Il y a toujours une équipe parce qu'en fait, ils ont fait des petits et tout ça. Et les gens ont soit été mutés. Il y a des gens qui sont devenus directeurs de tôle.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Dans cette équipe de 7, il y a un des 7 surveillants véreux qui a été promu directeur d'une des tôles en France aujourd'hui. C'est-à-dire que plus tu es véreux, plus tu es promu.
Ouais, puis voilà. En fait, c'est pas simplement que eux ils ont formé localement des matons qui sont violents. C'est aussi que dans pas mal de tôles, les directions, elles reposent sur des équipes de matons qui sont violents et qui vont semer la terreur, crarer pour réprimer les prisonniers. On a grave parlé de Seis, de l'escadron de la mort au Mitard. Et en fait, c'est exactement la même histoire, quoi. Exactement. Et il y a ça dans plein de types de tôles et dans plein de tôles, qui est de toujours avoir cette équipe-là, quoi. Et après, on va dire que c'est une équipe particulière qui répond pas au code de déontologie ou je sais pas quoi, qui a dérapé, mais pas du tout, en fait. La direction, elle les protège, mais en fait, elle les entretient aussi. Et la preuve, c'est que même quand ils sont mutés ailleurs, il y a une nouvelle équipe qui les remplace avec les mêmes pratiques.
Quand vous dites la loi du silence, le corporatisme est très fort. Les personnels se couvrent et il est impossible d'avoir des preuves ou de récupérer quand il y a ce genre d'altercation. Ces paroles contre paroles, et on sait que la parole d'un prisonnier ou de la famille ne vaut pas lourd face à la parole de surveillant.
Il faut savoir que les personnels ont un code de déontologie concernant le secret professionnel. On n'a pas le droit de communiquer des informations concernant ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Fondamentalement, quand on fait un peu opposition aux pratiques de l'administration et qu'on remet en cause ces choses-là, on s'expose à des sanctions en interne. On essaie de faire pression sur les personnels pour acheter la tranquillité du système.
Bon, après, leur code de déontologie, c'est très drôle parce que ça leur sert que réellement quand ils en ont besoin et quand ils en ont envie. Hein,
Après, c'est bien ce qu'il dit. Hein. Il dit concernant le secret professionnel.
Ah, oui,
c'est
oui.
En fait uniquement concernant le secret professionnel. Pour pas se pouquer avant eux, ils sont très bons. Ils se mettent des grosses pressions. Oui, quoi.
C'est quand ça, ils
quoi.
Mettent des noms des prisonniers sur Internet avec leur division, le secret professionnel, oulala, ça fait déjà belle lurette qu'il est dépassé. Hein. Et le code de déontologie. Et quand on fait grève devant les portes. Bon, bref, je vais arrêter là parce que je vais t'assassiner. Sinon.
La question d'après, juste pour dire, juste pour la sauter, la question d'après, c'est en gros lui qui dit que, évidemment, les directions, elles couvrent leur personnel parce que sinon, c'est reconnaître leur responsabilité et que, évidemment, elles ont ce lien-là et que, en fait, tout ça, ça s'auto-entretient, quoi. Il n'y a pas l'un sans l'autre.
Donc, prisonnier à Saint-Martin-André, Sambali Diabaté est mort le 9 août 2016 d'une asphyxie suite à l'intervention de surveillants. Vous en avez entendu parler en interne.
Oui, même n'ayant plus de carte ni de mandat syndical sur la fin de mon exercice. J'avais encore beaucoup d'informations qui me remontaient parce que j'essayais encore de défendre un peu le personnel. L'affaire Diabaté, j'en ai donc entendu parler en interne par des collègues qui se sont confiés. J'étais pas là, mais je sais qui était à quel endroit et les choses qui auraient pu être cachées. Et les tentatives pour se défausser des gestes qui ont été faits et qui n'auraient pas dû. Je sais par des conversations qui ont été tenues dans des bureaux par du personnel que le début de l'intervention part d'une altercation dans le bureau de G, premier surveillant. Ce personnel est un gradé de service. Il est premier surveillant. Il n'est pas juste surveillant. Donc il gère l'équipe ce jour-là en détention. Ce que je sais, c'est que le problème part d'un entretien entre le détenu Diabaté et ce premier surveillant, où le détenu Diabaté a mordu la main de ce personnel gradé. S'ensuit tout ce qu'on sait, derrière ou pas. En tout cas, l'intervention en question sur le détenu, les personnels qui étaient là, ce jour-là, et qui ont vécu la situation, se demandaient pourquoi G en a pas parlé. Après tout, quand on se fait mordre, il n'y a rien de mal à avoir mis un coup en retour. Ça reste de la légitime défense. Si on se fait mordre une main, qu'on pousse la personne ou qu'on mette une gifle, qu'importe, ça reste un droit.
Bon, après, on ne mord pas comme ça. Donc, à mon avis, il a répondu avant qu'on réponde, tu vois, en vrai.
Ouais, nous, on aurait plutôt dit la chose en inverse. Hein. Oui, c'est plutôt mordre après un coup de maton. Évidemment, oui, c'est légitime.
C'est exactement ça, voilà.
Mais que, par contre, le coup du maton... Ouais, mais non, je voulais dire, on aurait dit l'inverse de lui, quoi.
Exactement,
ouais. Le coup du maton n'est pas légitime et ne l'est jamais. D'ailleurs, lui, il est payé, en fait, pour se faire taper.
Son code de déontologie.
Il est payé pour se faire mordre, en fait. Ouais. C'est son taf, il touche un salaire de merde, mais en tout cas, c'est comme ça, quoi.
C'est ça.
Puis, il n'est pas tant de merde que ça, le salaire, quand même. Mais, non, mais, enfin, voilà, c'est un peu hallucinant de dire ce genre de choses, mais c'est ce qui, après, derrière, a justifié le fait qu'ils aient bâillonné Sambali, quoi. Voilà, donc c'est là-dessus, voilà. Ils l'ont bâillonné pour le déplacer avec un torchon. Voilà.
Il y a tellement de... Parce qu'ils requalifient les faits, mais ils en ont oublié beaucoup. Hein, Bref. Le surveillant G n'a donc rien dit. Hein. Il ne figure même pas dans la procédure. Hein.
Oui, alors qu'il devrait y figurer. Mais il y a eu un flou artistique sur le pourquoi du décès. Il ne savait pas de quelle manière le décès avait eu lieu. On sait maintenant que c'est par asphyxie. Mais à ce moment-là, la question était, est-ce que c'était suite à une commotion due à ce coup-là ou à un autre ? Parce qu'apparemment, il n'y en a pas eu qu'un. Il y a un collègue à qui on reproche d'avoir porté un coup au sol alors qu'il est arrivé dans les derniers et qu'a priori, il n'a même pas touché au détenu. Actuellement révoqué, il est en demande de réhabilitation puisque les langues se sont un peu déliées en garde à vue. Les gens sont revenus sur leurs propos.
Ouais, du coup, après, pendant après, en gros, il explique qu'ils se sont bien mis d'accord, tous ces matons, parce qu'ils ont la même version à la virgule près. Donc, voilà, moi, il explique ça. Et du coup, bon, ça, c'était évident, parce que de toute façon, ils ont le temps de se préparer. On en a parlé longuement dans plein d'histoires. Et on va juste passer, parce que le temps, il avance, et qu'après, il faut qu'on finisse de commenter. Je vais lire juste la question qu'on pose aux matons. Pendant cette intervention, Sambali Diabaté était bâillonné.
Oui, ça c'est sûr. Ce qui a été clairement défini, c'est qu'il y a eu un bâillon de positionné et que le détenu est mort asphyxié. C'est MR qui l'a bâillonné. Il a déclaré aux forces de l'ordre, mais bizarrement, il est toujours en activité. Donc on l'a transporté du bâtiment caserne au quartier disciplinaire, à la citadelle. Un détenu qui a été menotté dans le dos avec un bâillon dans la bouche, positionné au sol dans un camion, à plat ventre, avec une, voire plusieurs personnes sur le dos pour l'immobiliser. Voilà exactement ce qui s'est passé. Ce qui est marrant, c'est que des personnes présentes sur l'intervention occupaient des postes qui ne justifiaient pas leur présence sur les lieux. Mais ils n'ont pourtant jamais été inquiétés. Il y a un personnel connu de tout le monde qui a encore défrayé la chronique dernièrement et qui connaît beaucoup de monde au niveau de la direction régionale. Lui, il était au poste de surveillant des promenades, poste qu'il ne devait pas quitter, car il y a eu, au bas mot, entre 80 et 130 détenus sur la cour de promenade. Pourtant, il a participé à l'intervention, ce qui a été relevé par tout le monde, et ça n'a inquiété aucune personne de l'administration, de savoir qu'une personne qui ne devait pas logiquement pas avoir accès à l'intervention, puisqu'elle était en poste, et qu'on ne peut quitter ce poste sans relève. Il n'a pas été inquiété. Pour avoir tenu le poste de surveillant de promenade, je sais que sur les horaires où il y a des détenus sur la promenade, il faut savoir que rien... que pour des commodités d'ordre personnel, il faut demander à un collègue de venir prendre le poste.
Quand on vous apprend les techniques d'immobilisation, vous le savez, que le bâillon, c'est interdit.
Oui, ça ne doit pas être pratiqué. C'est officiellement stipulé.
Même les strangulations sont proscrites. Il y a une formation technique, intervention et menottage une fois par an. C'est un peu sommaire et redondant, mais tout le monde y passe, au même titre qu'au stand de tir, où l'on répète aux agents le droit d'usage d'ouverture du feu, les circonstances, sur quel commandement, etc. D'ailleurs, dans l'affaire Diabaté, les reproches qui sont aussi faits à la première surveillante, c'est de ne pas avoir géré son intervention et d'avoir laissé faire des gestes interdits. Elle aussi, elle a fait 2 tentatives de suicide.
C'est raté.
Ouais, et du coup, donc là, ce qu'on vient de lire, c'était un témoignage d'un maton qui a démissionné. On a squeezé certaines parties, elles seront dispo en entier là sur le site. Peut-être pour revenir un peu sur...
Ouais, et puis après, peut-être terminer aussi un peu ce qui s'est passé pour Sambali, parce qu'à ce moment-là, en fait, il le sort du fourgon. Très probablement, il est déjà décédé, il s'est déféqué dessus. Voilà, il le fout quand même au mitard. Voilà, alors que en fait...
En vrai, ils savent, dès l'instant qu'ils le savent.
Ils le savent, leur excuse, c'est des râlements, mais c'est des trucs normaux qui arrivent, parce que l'air que s'expulse même une fois que t'es mort, et en fait, c'est pas... Voilà, sachant qu'il était bâillonné, quoi, donc ils ont pris un torchon, ils ont fait un nœud derrière, et ils ont tiré, quoi.
Ils l'ont clairement assassiné.
Et après, derrière, ils le foutent au mitard, il décide de le mettre sous le lit en fer, voilà, alors qu'il est inconscient, en disant « Ah oui, non, mais ça, c'est la procédure classique, hein, dès que quelqu'un est un peu dans les vapes et tout ça, parce que quand il se relève, quand tu te relèves, quand tu as été un peu inconscient, t'es un peu... bref, tu te relèves un peu en sursaut, et donc, en fait, il le fout la tête sous le lit pour qu'il se cogne la tête, et comme ça, il retombe tranquille, et voilà. »
Si c'est pas des actes de barbarie, je sais pas comment ça s'appelle.
Hein. Donc voilà, il y a tout ce truc, la famille se bat de manière assez impressionnante et principalement judiciairement, mais c'est en train de passer. Comme d'hab, en fait, les juges, et pour avoir échangé avec l'avocat et tout ça, enfin. Il hallucine, quoi. Enfin, il y a un vrai truc de diminution des charges qui est complètement fou. Ça arriverait dans n'importe quelle autre affaire. Bon, on en se parlait déjà il y a deux semaines, quand il y avait le témoignage d'Oumou. Dans n'importe quelle autre affaire, si ça ne concernait pas des matons, en fait, il serait au minimum inculpé pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Voilà. Et pour l'instant, c'est juste...
l'intention de la donner, elle a l'air quand même
un peu hardcore, l'intention de la donner, exactement.
Nous, on n'est pas juge, donc on va passer à des qualificatifs.
Mais en tout cas, un minima, ça aurait été
on
ça.
On n'est pas juge, mais on a un minimum de jugeote.
Elle sortait dans la punchline, quoi.
J'adore. Mais non, c'est abusé.
c'est totalement taré ce qu'il raconte. Ce qui est, en fait, le plus... moi, je trouve le plus taré, c'est la manière dont il le raconte aussi froidement, quoi. C'est-à-dire, en fait, pour lui, genre, limite, il arrive à placer ses marrants. Alors qu'il est en train de parler de quelqu'un qui se fait bâillonner d'un quartier à l'autre, qui n'arrive plus à respirer, où il y a 4 personnes qui sont assis dessus, et il dit oui, c'est interdit, mais nous on continue de le pratiquer, pourtant on a une formation d'une journée par an. Non, mais enfin, en fait, c'est non, genre.
Puis il avoue qu'au départ, il couvrait ses collègues au départ, en vrai, indirectement. Tu vois.
Et quand on dit ça, c'est même pas pour charger le Pierrick en question, hein, qui en vrai fait du taf là, en dénonçant ce qu'ils ont fait et en participant à la procédure. C'est pour dire un peu le mental qu'ont ces gens-là, en fait.
C'est tellement bizarre d'appeler un maton par son prénom, c'est tellement bizarre. Oh là là, j'ai du mal. Hein.
Non, mais c'est pour dire.
Ça arrivera pas souvent, cette antenne de nouveau.
C'est dur.
Mais en fait, c'est pour dire dans quel état d'esprit ils sont tous, quoi, en fait. C'est que lui, il aurait pas rencontré quelqu'un qui ressemblait, ou, etc. En fait, il n'en serait pas arrivé à dénoncer tout ça. Et qu'en fait, tout ce qu'il raconte de manière hyper froide, c'est ce qui se passe au quotidien. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression d'être au taf et ils se lâchent comme s'ils étaient entre eux, quoi. Et du coup, tu le vois bien, en fait, que genre, ils appellent au meurtre, clairement, des fois, de certains prisonniers, qu'ils sont, en fait, eux, dans des logiques de vengeance où ils se filent le nom des gens pour qu'ils se fassent éclater à leur arrivée de prison. Enfin, ce genre de trucs, quoi. Et donc, moi, je trouve que ça montrait vachement ça aussi, sa parole, quoi. C'est cette espèce de froideur qu'il a en l'évoquant, quoi. Ça fait.
Oui, parce que c'est souvent un truc qu'on dit, en fait, ici, à cette antenne. Enfin, c'est rare quand même qu'on soit en contact avec des matons et tout ça, mais on a toujours dit, enfin, voilà, de, enfin, les suicidez-vous et tout ça, c'était pas des phrases qui nous bottaient à fond, mais on disait simplement démissionner, quoi. Mais tu te rends compte que même des personnes qui ont démissionné il y a un certain moment, en fait, ils restent quand même dans une logique corporatiste assez forte. Et je trouve que c'est... Enfin, en fait, moi, peut-être que ce que je retiendrai le plus là-dessus, c'est que un type qui a démissionné, qui accepte de témoigner, il continue à avoir cette logique-là. Donc imaginez ceux qui sont encore à l'intérieur. Merci. Et qui n'ont pas démissionné et qui sont encore dans ces logiques-là. Enfin, je pense que c'est ça, en fait, peut-être ce qu'on doit en tirer, c'est que imaginez la loi du silence qui règne à l'intérieur. Enfin, voilà, on l'a vu très bien pour l'affaire de Gimoni. Mais là, c'est vraiment symptomatique du truc, quoi. Enfin... Le gars, il a plus rien à perdre, quoi. Enfin, voilà.
Non, puis tu sens que le mec, en vrai, il est habitué à avoir des choses étranges à l'intérieur quand il parle pour avoir cette froideur, en vrai.
Ouais, ça, il est habitué à cette violence, quoi. Il est habitué à se couvrir entre collègues. En fait, enfin, c'est vraiment ça ce que ça montre, quoi.
Il dit à un moment qu'il était encore dans justement le fait de couvrir. Donc, avant de dénoncer celui-ci, il a dû en voir d'autres, hein.
Mais donc, en tout cas, il y a ça va, voilà. Je pense que c'est parfois aussi important de connaître son ennemi sur comment il fonctionne et tout. Ouais.
Wow, on savait déjà comment il fonctionne.
Oui, voilà.
Ouais.
On va continuer un petit peu. On va pas avoir le temps de faire le Covid comme à chaque fois. Voilà.
Mais il est encore là, bien présent. Hein. Et là, on les a tous. Hein. L'allemand, l'anglais, l'américain, le normand, tout. On les a tous là, donc on aura le temps. Hein.
Mais on sait qu'à l'intérieur, c'est de plus en plus pensée, la cata.
Une pensée aux gens de la santé qui sont pratiquement toute une aile.
Ouais, il y a toute une aile qui est
voilà. Confinée.
Il y a un truc de ouf quand même qui a été pris là avec ce nouveau confinement. C'est que les personnels de la justice sont considérés comme étant des gens essentiels. Mm-hmm. Donc, ce que ça
même
veut
quand il y a
clairement...
des ministres qui font la fête, paraît-il.
Ah. Mais en tout cas, ce que ça veut dire clairement, c'est qu'ils veulent continuer à incarcérer de ouf.
Grave.
Voilà, et que va pas y avoir moins de comparutions immédiates, va pas y avoir moins de procès, va pas y avoir.
De toute façon, là, tous les faits de la première vague qui étaient de dire fermons les centres de rétention, donc les prisons pour sans-papiers, diminuons le nombre de personnes en maison d'arrêt parce que ça va devenir ce qu'ils appelaient des clusters, donc des endroits où les gens ils vont se contaminer massivement, ça a disparu en fait, publiquement. Il n'y a plus personne qui le tient de dire il faut fermer les prisons ou en tout cas il faut libérer un maximum de monde. Et donc c'est évident que eux, une fois que ça s'est dit, ils vont continuer de foncer. Enfin, c'est ce qu'on racontait. En fait, là, ça fait quand même un an que c'est de plus en plus la galère pour tout le monde. Il y a quand même pas mal de monde qui est en train de comprendre dehors que ça risque d'être encore plus la galère dans 6 mois, dans 1 an que maintenant. Et donc, il faut continuer de faire peur. Et c'est le rôle quand même principal de la tôle dehors, c'est de faire peur. Et du coup, ils comptent pas s'arrêter là-dedans, quoi. Par contre, ce qu'on disait aussi, c'est que tout ce qui gratte en attendant, ils vont continuer de le gratter. Et ils ont maintenu la justice, mais s'ils ont besoin, du jour au lendemain, les avocats en garde à vue, ils n'existeront plus à nouveau. Parce que ça a déjà été expérimenté et que c'est passé. Et que du coup, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le refaire le jour où ils l'ont décidé, quoi.
Et juste, les prisonniers, ils ne se laissent pas faire non plus quand même face à ça. Et ce week-end, il a été bien mouvementé à la Talo. Voilà, il y a
qui
eu...
Qui est la tôle de Saint-Etienne.
Qui est la tôle de Saint-Etienne. Voilà, où il y a eu un énorme blocage de promenade, voilà, avec des revendications qui sont très claires. La suppression du plexiglas dans les parloirs et de récupérer des Xbox. Donc voilà, si vous voulez... Les gens arrêtent de bloquer les promenades. Vous avez qu'à faire sauter ces trucs-là et filer les Xbox.
Non, puis c'est,
et puis on arrête de déconner. Quoi.
Il faut continuer à le dire. Ces plexiglas servent à couper les liens familiaux, puisque quand il n'y a pas de plexiglas, quand ils vont voir les SPIP, il n'y a pas de plexiglas quand les matons viennent dans ta cellule pour te faire les contrôles barreaux, les contrôles toilettes là, ou les contrôles de tout là. Il n'y a pas de contrôle à l'intérieur, en fait. Vous voyez, il n'y a pas cette séparation de vitres. Elle est vraiment que pour ces familles. comme si on était des inconscients et des abrutis pour ramener la maladie à l'intérieur des tôles et en mettant nos proches, alors que toute l'année, on se bat pour qu'ils aient des soins en détention. On n'est pas des abrutis. Voilà.
Contrairement à d'autres qui ont fait la teuf à plein de moments, à différents moments du confinement et ont été tous malades. Contrairement à plein de moments aussi, on sait qu'en fait, c'est les matons, quel que soit leur uniforme, qui ramènent la maladie à l'intérieur. Juste pour en parler, il y a le centre de rétention de Vincennes, donc qui est une grosse prison pour sans-papiers d'Île-de-France, qui est totalement en quarantaine là, depuis deux jours. Et donc ça arrive parce que le bâtiment où étaient censés être mis tous les gens qui n'avaient pas le Covid, qui avaient testé négatif, il y a eu des cas positifs dedans, ce qui veut dire a priori que c'est les keufs, hein, on en parle, enfin les keufs matons quoi, qui l'ont ramené à l'intérieur. Et une quarantaine, ça veut dire plus de parloir. Plus d'accès à la fouille, donc là où il y a les affaires qui sont déposées. Et ça veut aussi dire qu'ils vont mettre la pression encore plus fortement pour que les gens fassent des tests PCR et qu'en cas de test négatif, les expulsions restent possibles, même vers l'Algérie, même vers le Maroc. Enfin, c'est important de le dire. Il continue d'y avoir des vols si c'est pour expulser ou pour certaines raisons, quoi. Et voilà.
Non, c'est juste que ça me fait halluciner.
C'est hallucinant.
J'en peux plus, en fait, d'entendre ce genre d'infos. Non, mais c'est vrai, en fait, on répète toutes les semaines la même chose, en fait, depuis quasiment un an. Il n'y a rien qui bouge, ça s'empire. Et juste, j'en
ai marre. C'est incroyable que tout le monde s'en fout.
Mais
c'est
voilà,
incroyable.
Et c'est vrai que tu avais raison tout à l'heure en disant plus personne porte ce truc-là, quoi. Et ça fait bizarre que toutes les semaines, en fait, on répète toujours la même chose et il n'y a rien qui bouge et même ça s'empire. Donc bon, là, ils nous refont un confinement, ils ne bloquent pas les parloirs, mais fais péter tes parloirs. Ce n'est pas des parloirs. Donc voilà. Et,
non, puis c'est des abus, hein, comme vous savez tous. C'est des parloirs qui sautent pour rien. Une mamie qui s'est vue retirer son parloir parce qu'elle a touché la main de son fils, de son petit-fils par-dessus le plexiglas, parce que des fois, il y a des plexiglas qui ne vont pas jusqu'au plafond. Et donc, juste pour ça, on lui a retiré pendant 3 semaines. Voilà, c'est immonde.
Non, mais c'est... Voilà. Et ça, en plus, ça n'a aucun sens, quoi. Vraiment. Enfin, voilà. C'est juste... En fait, on sait pourquoi ils font ça. C'est une mesure disciplinaire. Et en fait, ça leur demande moins de taf de surveiller, parce que, soi-disant, c'est par là que passe un certain nombre de trucs. Mais en réalité, c'est juste que ça leur permet de garder le monopole à l'intérieur. C'est qu'eux, ils se font masse de pognon. Et donc, ça leur demande moins de taf de surveillance... Et en plus, ça leur rapporte du pognon.
Ouais. Et après, peut-être, faut dire que vu qu'ils avaient la possibilité, là, qu'ils l'ont encore, de sanctionner les gens si tu arrives à toucher ou quoi, même quand il y avait des fois moins les plexis ou quoi, moi, j'avais, dans les parloirs que j'ai fait, il y avait vraiment, les matons tournaient beaucoup plus après le confinement. Mais parce qu'en fait, ils espéraient te cramer en train de checker ton pote, par exemple, parce qu'ils voulaient te faire sauter ton parloir, quoi. Et en fait, d'habitude, ils restent dans un coin en train de discuter,
fumer leur clope,
etc. Mais en fait, là, vu qu'ils avaient une occasion de nous casser la tête, de nous péter et que tu prennes une suspension de parloir, en fait, ils étaient refaits de traîner. Et ça veut dire que ton parloir, c'est encore moins ton parloir parce que tu le vois toutes les 30 secondes, un maton qui passe de chaque côté et qui est en train de te regarder.
Ouais, puis t'es obligé de brailler. Donc en fait, t'as plus aucune espèce d'intimité. Tu peux plus avoir de discussion. Enfin voilà, t'as plus d'espace privé, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, quoi, mais un espace juste à toi, qui est ce petit moment du parloir, qui est quand même.
Pour les deux, ouais. Et donc,
tu sais que la conversation, en fait, elle va être entendue par tout le monde à l'extérieur, parce que tout le monde est obligé de gueuler. Donc voilà, donc faut rappeler qu'il y avait une décision, je crois que c'est à Angoulême, Benoît David, qui a réussi à faire sauter les parloirs.
Non, puis il y a
les parloirs gériophones.
Quand t'es en maison d'arrêt, que t'es pas jugé, t'as le droit à 3 parloirs, maintenant t'as le droit qu'à 2 ou à 1 parloir dans certains tôles. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ils te réduisent ton temps de visite, alors que c'est quelque chose que toute la semaine t'attends.
Et les UVF, toujours rien. Enfin, voilà. Pareil, ça c'est une dinguerie. Les UVF, ok, au pire, vous demandez un test négatif.
Ça a été donné, ça.
De 48 heures.
Ouais, mais en fait, c'est surtout que les UVF, ça venait remplacer des permes qui avaient été accordés. Ça, et que du coup, s'ils veulent plus faire d'UVF, il n'y a pas de problème. En fait, tu redonnes des permes aux gens. Et c'est réglé. Et en fait, c'est toujours la même logique. C'est-à-dire que d'abord, ils ont avancé avec les UVF pour empêcher des permes. Maintenant, ils sont en train de dire ah, c'est mort avec la crise sanitaire, il n'y a plus d'UVF. Et en fait, non, la logique, elle devrait être totalement inverse, quoi. Y compris d'ailleurs pour les gens, parce qu'ils n'arrêtent pas de le dire, il faut être dehors pour ne pas choper la maladie, quoi. Donc, peut-être qu'on va rappeler une dernière fois les contacts avant de faire les coucous. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent s'abonner ou donner des nouvelles de l'intérieur, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. pour nous appeler, donc c'est au 07 52 40 22 48. Vous pouvez aussi nous contacter par WhatsApp, Signal, etc., Facebook, Twitter, etc. Enfin, il y a tout un tas de manières. On va passer
au coucou.
Ben ouais.
Ben moi, je fais un grand coucou à Martial. Une grosse pensée à toi. À Ouria, à tous les prisonniers et prisonnières de France, à Karim, puisque j'ai appris que c'était ton anniversaire et que tu rentrais dans l'âge vieux. Voilà.
Tu aurais pu dire l'âge de la sagesse.
Non, vieux.
Bon, on n'y croit pas.
Vieux. Ça fait plaisir, je suis plus vieux que vous, plus vieille, donc ça fait, tu vois. Bon, pas dans ma tête. Et puis voilà, donc.
Ouais, un gros big up à Fabrice aussi. Moi, j'ai raté ton appel. Je ne sais pas si tu entendras ça, mais en tout cas, nous, on pense à toi toujours. Toujours plein de force à Mehdi. Pareil, voilà, ouais, on se contacte moi en ce moment, mais en tout cas, on pense toujours à toi et plein de force à tous les prisonniers là, des centres de rétention, notamment à Vincennes, où ça doit être particulièrement la galère. Beaucoup de force aux proches, parce qu'on en a parlé aussi. Quand ça galère à l'intérieur, c'est que ça galère pour les proches dehors.
Un coucou à Noël aussi, désolé c'était pas le bon moment quand t'as appelé, c'était en deux spies. J'ai récupéré ta lettre, donc je vais essayer de répondre au plus rapidement. Et puis voilà, force à tout le monde à l'intérieur, force à toutes les longues peines. Enfin voilà, on a pris le temps d'en parler.
À toutes les longues et aux petites peines, ouais. À tous les prisonniers de...
Rediffusion mercredi matin, 8h30.
Ouais, je crois, bien.
Force, courage et détermination.
Et... attention, il n'y a pas d'arrangement.